Avoir raison avec Raymond Aron.
Suis-je à la recherche de mon personnage? Franchement, non, je ne crois pas. J'ai le sentiment que mon existence a été faite dans une large mesure par des circonstances qui me sont extérieures. Car mon ambition initiale, je ne crois pas l'avoir accomplie, elle était purement philosophique et purement scientifique.
Aujourd'hui, Aron, penseur des relations internationales et de la guerre. Si l'on en croit Stanley Hoffman, jusqu'au début des années 50 en France, la politique extérieure et les rapports entre les États étaient du ressort des historiens, des juristes et, dans une moindre mesure, des économistes. C'est Raymond Aron qui, dans ce pays, a véritablement créé une discipline autonome des relations internationales. Au sortir de la guerre déjà, Aron avait publié deux livres de commentaires d'actualité, Le Grand Schisme et Guerres en chaîne, dans lesquels il essayait d'expliquer dans quel nouveau paysage international s'inscrivait une France libérée mais exsangue. Il cherchait notamment à persuader ses compatriotes de la nécessité d'une réconciliation avec l'Allemagne et de celle de l'Alliance Atlantique. Mais c'est surtout dans son livre « Paix et guerre entre les nations » dont il achève la rédaction à Harvard en 1962 et avec « Penser la guerre Clausewitz » paru en 1976 qu'il développera une théorie systématique des relations internationales. Sa force est de combiner un ensemble cohérent de questions tendant à rendre intelligible le comportement des États et l'analyse de faits bien concrets puisés dans l'histoire et dans l'actualité. Car ce professeur est aussi un éditorialiste de presse. Ce n'est pas en bibliothèque que réfléchit Aron, mais dans les salles de rédaction. Or, en analysant les tendances du présent qu'il a sous les yeux, il écrit aussi pour l'avenir. Voyons comment, avec nos invités, Pierre Hastner, vous avez été l'élève préféré de Raymond Aron. Il mentionne votre exposé mémorable sur Thucydide dans ses mémoires. Théoricien des relations internationales, votre dernier ouvrage paru l'an dernier s'intitule « La revanche des passions, métamorphose de la violence et crise du politique ». Jean-Vincent Olindre, vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Poitiers, enseignant également à Sciences Po et membre associé du Centre Raymond Aron de l'École des hautes études en sciences sociales. Enfin, Joël Mouric, vous êtes agrégé d'histoire et docteur en histoire contemporaine, auteur de « Raymond Aron et l'Europe » aux presses universitaires de Rennes, et vous avez été prix Raymond Aron 2011. Première question, Pierre Hastner. Reparlons de votre fameux exposé sur Thucydide à l'École des hautes études. Aron admirait passionnément Thucydide. Que trouvait-il donc dans la guerre du Péloponnèse, écrit 5 siècles avant Jésus-Christ, qui pouvait lui servir à penser l'état du monde dans la seconde moitié du XXe siècle?
Il y a d'abord une explication simple qui est la bipolarité entre Sparte et Athènes. Se prêtait à comparaison avec l'époque de la guerre froide, avec la bipolarité États-Unis-Russie. Mais au-delà de ça, il trouvait vraiment que Thucydide était le maître pour la politique internationale. Et on peut dire que sa vision du monde, je trouve, il y avait un pôle Thucydide et un pôle Kant. Il y avait le combat des héros, et en même temps, il avait dans une conférence en Allemagne, il avait dit l'histoire universelle, ce mélange d'héroïsme et d'absurdité, et la salle avait éclaté en applaudissements. Donc la dimension de la rivalité et de la lutte, c'est Thucydide. Et en même temps, il y avait, et c'est le côté par lequel on parlait de son pessimisme, il pensait que c'est quelque chose d'éternel. Et d'autres, d'ailleurs, en même temps que lui, déjà, Albert Thibaudet avait fait un petit livre, La guerre avec Thucydide, pendant la Première Guerre mondiale. Mais il y avait les analogies avec la bipolarité. Donc, c'était une de ces dimensions. Et l'autre, c'était Kant, c'était quand même une évolution de l'histoire vers l'histoire universelle qui là n'est pas dans Thucydide. C'était un de ces deux côtés, on peut dire. Thucydide, l'éternel affrontement des volontés et la paix, et Kant, quand même l'évolution, un peu ce qu'il a appris appelé dans un article important et tardif, le procès et le drame, l'idée qu'il y a à la fois le progrès technique, l'évolution des sociétés, etc., et puis le drame éternel de la guerre, de la compétition, dont le grand auteur est Thucydide.
Chez Thucydide, il y a l'opposition de Sparte et Athènes, et on voit bien qu'effectivement, à l'époque de la guerre froide, Athènes, c'était les États-Unis, et Sparte, c'était l'Union soviétique. Je rappelle juste ce passage des mémoires de Aron, où il dit, dans je ne sais quelles circonstances, écrit Raymond Aron dans ses mémoires, Pierre Asner, qui fréquentait parfois mes cours, fit un exposé brillant, étourdissant sur Thucydide, je le comblais d'éloges qui ne dépassaient pas ses mérites. Alors, au-delà de la comparaison entre Sparte et Athènes et l'URSS et les États-Unis, puissance continentale et puissance maritime, qu'y a-t-il d'autre qui permettait à Aron et qui a permis à l'élève d'Aron, Pierre Asner, ce fameux jour-là, de nous expliquer en quoi la comparaison que faisait Thucydide dans la guerre du Péloponnèse entre ces deux alliances rivales, pouvait, à vous, Pierre Asner, ce jour-là, vous a permis de dire quelque chose qui a ébloui Aron. Est-ce que vous vous souvenez de quoi il s'agissait ?
Pas tellement. Je me souviens simplement que une partie du mérite ne me revient pas parce que je revenais de Chicago où j'avais suivi des cours de Léo Strauss, auteur que Aron lui-même estimait beaucoup. C'est lui qui m'avait envoyé à Chicago suivre les cours de Strauss. Et mon fameux exposé chez lui était en partie inspiré du cours que j'avais suivi à Chicago de Léo Strauss. Mais non, je me rappelle que j'avais essayé de conceptualiser Thucydide en quelque sorte en parlant du jeu de la nécessité et du hasard dans les relations internationales, dans la guerre, etc. Cette expression avait plu à Ron. Et je me rappelle surtout ça, de cet exposé que j'avais fait.
Malgré tout, dans l'ordre de l'histoire, si on entend survivre, il faut consentir aux moyens efficaces et on ne résiste aux armes que par les armes. État démocratique et État totalitaire, Société française de philosophie, 17 juin 1939.
Alors Joël Moury, qu'il est bien difficile de bâtir une théorie des relations internationales, une théorie générale, sans en passer par l'étude de cas concrets. Ce que faisait Thucydide du reste. Alors comment Aron, théoricien, s'est-il servi des compétences d'Aron, éditorialiste de presse? Comment jugeait-il en particulier, puisque c'est l'époque où il a fait cette déclaration, comment jugeait-il la situation internationale de la France, épuisée par la guerre de 40 et sa défaite, et par l'occupation au lendemain de la libération?
Alors, Raymond Aron s'efforce de penser le monde dans un système. Donc, il essaye de combiner la rigueur intellectuelle qui est requise par un système philosophique et en même temps la flexibilité de jugement qui correspond à l'étude des cas concrets. Au lendemain de la défaite, il est conscient de plusieurs réalités. D'une part, la France n'a plus les moyens d'une grande puissance. Par ailleurs, il estime qu'une deuxième occasion se présente d'effectuer la réconciliation franco-allemande. C'est un homme qui a toujours été désireux, dès sa jeunesse, au lendemain de la Première Guerre mondiale, de réaliser cette réconciliation. Et pour lui, au fond, Ce que l'on va appeler ensuite la construction européenne n'a d'intérêt que si elle favorise cette réconciliation. Et c'est dans cet état d'esprit qu'il agit.
De votre côté, Jean-François Hollin, vous qui êtes un spécialiste des questions militaires, quand vous entendez quelqu'un comme Aron en 1939 dire que si on veut survivre dans l'état actuel du monde, il faut savoir se défendre, c'est étrange pour un homme qui, à l'époque, est un homme de gauche. S'il est de la SFIO.
Mais il a soutenu sa thèse en 1938 en revenant d'Allemagne où il avait travaillé sur les sociologues allemands, notamment Max Weber, lui-même déchiré entre son engagement politique et sa volonté d'être un savant. Et ce séjour en Allemagne, disons, l'a changé complètement. Il était pacifiste initialement, c'était un élève d'Alain, du philosophe Alain, et donc il était dans cette mouvance pacifiste alinienne. Et puis, il a observé en Allemagne, à Cologne, puis à Berlin, la montée en puissance du nazisme et le fait que les démocraties étaient évidemment fragilisées par la montée de ce totalitarisme. Et lorsqu'il dit qu'effectivement... lorsqu'il y a guerre et que les armes sont utilisées contre un pays, eh bien, il faut pouvoir se défendre. Il a à l'esprit cette idée que les démocraties ne doivent pas se contenter du pacifisme, qu'elles doivent au contraire se défendre face aux menaces qui les touchent. Même si plus tard, il écrira aussi ce fameux chapitre « Survivre, c'est vaincre » dans un tout autre contexte où il dira que les armes ne suffisent pas, la dimension psychologique, la dimension politique est déterminante et l'emporte sans doute sur la dimension militaire.
Et Jean-Vincent Hollande, c'est aussi à Londres que, bizarrement, ce philosophe de formation qui avait travaillé sur Kant pendant un an de sa vie se met à travailler sur les questions stratégiques.
Oui, alors il part à Londres très peu de temps après l'appel du général de Gaulle et il rejoint donc la France Libre et donc la revue du même nom dont il est l'un des rédacteurs en chef et il côtoie notamment un Polonais, un certain Rosinski qui l'initie à Clausewitz et puis évidemment le contexte de la guerre rend évidente ses études et son travail sur la guerre. Donc c'est de là que date en effet son intérêt pour Clausewitz et pour les questions stratégiques, mais c'est lié à la fois au contexte et à sa volonté d'étudier la guerre comme un domaine circonscrit d'action à partir duquel il va pouvoir déployer sa philosophie critique de l'histoire qu'il avait développée dans sa thèse de 1938.
Encore un aspect intéressant de Raymond Aron, si on compare à Jean-Paul Sartre, ce qu'on a fait les jours précédents de cette émission, c'est que Aron s'intéresse toujours aux problèmes très concrets, très pratiques. Il s'est initié à l'économie dès l'école normale supérieure, il s'initie aux questions stratégiques pendant la guerre. Il ne se contente pas, pour un philosophe, de faire, disons, de la métaphysique, c'est le moins qu'on puisse dire.
Sa volonté, c'est de rester pleinement philosophe tout en étant pleinement dans les problèmes de son temps. Lorsque, sur les bords du Rhin, il élabore son projet de vie intellectuelle, son projet philosophique qui donnera l'introduction à la philosophie de l'histoire, il dit qu'il entend penser l'histoire en train de se faire. C'est-à-dire, non pas penser l'histoire d'un point de vue déterministe et idéologique, comme le faisait Hegel puis Marx, mais penser la contingence historique, ce que Pierre Asselin disait tout à l'heure, le procès et le drame. Il y a des grands mouvements historiques, des grands cycles historiques, et en même temps, l'événement vient surprendre les êtres humains à différents moments de leur histoire. Et la guerre est par définition le moment surprenant et tragique.
Un empire fondé au loin par une métropole imbue d'idées démocratiques est en soi une œuvre précaire, minée de contradictions, condamnée à un écroulement ou à une transformation rapide. Un empire exige, pour durer, l'effacement progressif des inégalités dues à la conquête. Citoyenneté romaine, citoyenneté russe implique l'égalité, sinon des peuples dans leur ensemble, du moins des privilégiés, qu'ils sortent du peuple maître ou des populations allogènes. Une histoire du XXe siècle, Anthologie, tome 1, page 52.
Alors Pierre Asner, on l'entend, dès la sortie de la guerre, Aron explique aux Français que le colonialisme c'est quelque chose de dépassé, qu'ils n'en ont plus les moyens et que de toute façon l'histoire va condamner les empires coloniaux. Il se fait très mal voir par la droite à l'époque.
Oui, et ça a culminé avec sa prise de position sur l'Algérie, la tragédie algérienne. Et, on peut dire que sa position sur les questions Est-Ouest l'avait brouillé avec la gauche, qui était souvent
neutraliste
ou
centre
vers le Ponti ou soviétique, que ça va très mal en Russie, mais c'est le seul espoir de surmonter l'exploitation de l'homme par l'homme, comme disait de Merleau-Ponty, par exemple, qui était plus modéré que Sartre, mais quand même. Et le livre sur l'Algérie l'a brouillé avec la droite, puisqu'il est allé au-delà de ce qui était l'orthodoxie de la gauche, des gens comme Jean Daniel, etc., essayer de trouver une solution intermédiaire. Et lui a dit il faut donner l'indépendance à l'Algérie, il n'y a pas un moyen autrement. Il y avait d'ailleurs, au fur et à mesure, il se critiquait lui-même, il se reprochait de ne pas avoir été assez ferme dans la critique de la guerre d'Indochine, parce qu'il était partagé, si vous voulez, ce qu'était la menace soviétique l'Est-Ouest pour la guerre de Corée. Je me rappelle, c'est l'une des premières fois où je l'ai vu, quand la Corée du Nord a envahi la Corée du Sud, le Monde avait titré « Il est urgent d'attendre » et Aron avait fait une conférence, c'est la première fois où je l'ai entendu faire une conférence disant « Il est urgent d'agir ». Et c'était vraiment la conscience qu'il fallait résister, il fallait éviter la guerre, mais que sa fameuse formule, une de celles qui sont restées les plus célèbres, c'était « paix impossible, guerre improbable ». Et donc, dans toute la guerre froide, il a eu cette position qu'il a tenue fermement, qu'on pouvait éviter la guerre, elle n'était pas certaine, mais qu'il ne pouvait pas y avoir de vraie paix avec l'Union soviétique. C'était la position de George Kennan, mais que l'auteur de la stratégie de l'endiguement, du containment, mais que Kennan, ensuite, dans les années 50-60, avait changé d'avis, avait des projets assez fumeux pour une zone neutralisée au milieu de l'Europe, etc. Et Aron est resté fermement à l'idée qu'il n'y avait qu'à attendre l'évolution, l'éclatement de l'Union soviétique, et que survivre, c'est à long terme vaincre, parce qu'un jour ou l'autre, le bloc soviétique serait divisé et que l'Union soviétique serait soumise à des changements. Mais Kennan, l'auteur de la stratégie de l'endiguement, l'avait plus ou moins abandonné. Et Aron est resté ferme jusqu'au bout, et à juste titre, sur cette formule « paix impossible, guerre improbable » tant que l'Union soviétique est ce qu'elle est.
Joël Mouric, précisément, cette image d'Aron combattant de la guerre froide, c'est une de celles qui lui a valu le plus d'inimitié, on peut dire, dans l'intelligentsia française et internationale.
Oui, certainement. Alors, cette image de Cold Warrior n'est en fait pas justifiée si l'on regarde les positions effectives de Raymond Aron. En effet, il a eu toujours le souci de ramener l'affrontement idéologique de la guerre froide dans le sens de la modération. Par exemple, il a en 1953 écrit une postface pour un livre de James Burnham, conservateur américain d'origine trotskiste, qui était favorable à la politique du rollback, c'est-à-dire la politique de la reconquête.
Du refoulement des soviétiques.
Et Aron donne raison sur un point à Burnham. Pour Raymond Aron, il faut mener le combat idéologique et le mener sans état d'âme. En revanche, en pratique, Aron est favorable à la stratégie de l'endiguement, c'est-à-dire une stratégie qui évite une confrontation dont les effets seraient illimités. En fait, on a évoqué tout à l'heure les guerres en chaîne, l'essai écrit en 1950 au début de la guerre de Corée, et dans les guerres en chaîne, l'un des buts de Raymond Aron est d'éviter le retour de ce qu'il appelle à l'époque les guerres hyperboliques. Dont
l'ascension aux extrêmes.
L'ascension aux extrêmes, dans la logique de Clausewitz. Et finalement, ce dont la guerre de 30 ans européenne, cette guerre du Péloponnèse au XXe siècle, avait donné l'exemple entre 1914 et 1945.
D'ailleurs, il a été critiqué par ça. Il y a Richard Pipes, qui a été ensuite le conseiller de sécurité de Nixon, a écrit tout un livre qui s'appelle « Survival is not enough »,« La survie n'est pas assez », qui est une réponse au chapitre de Paix et Guerre, où il dit « Survivre, c'est vaincre ». Il disait « Non, on peut agir pour créer des divisions en Union soviétique, pour essayer de... » Tandis que pour Aron... était resté fidèle à l'endiguement, au containment, en disant un jour ils seront forcés de charger, mais entre-temps il faut tenir bon la ligne, alors que l'inventeur de la stratégie de l'endiguement, Kennan, l'avait abandonné en proposant un retrait simultané des une zone au milieu de l'Europe, etc. Et d'autres, comme Pipes, qui était le conseiller de Reagan, trouvaient que c'était trop modeste et qu'il fallait au contraire revenir au refoulement que Dulles avait prôné tant qu'il n'était pas secrétaire d'État, et après quoi Eisenhower avait suivi l'endiguement comme ses prédécesseurs.
Pour en revenir aux États-Unis, le grand livre de Raymond Aron sur les États-Unis, c'est La République impériale. Si l'on en croit Aron, ça serait en contradiction avec leur propre tradition politique que les États-Unis auraient été amenés à devenir une puissance militaire en temps de paix. C'est ce qu'il dit en tous les cas. Afin de contenir la poussée soviétique, ils ont été amenés, eux qui n'aiment pas faire la guerre en temps de paix et maintenir des armées régulières importantes, ont été amenés au contraire à le faire. Derrière, il y a une profonde méditation sur les nations et les empires. Qu'est-ce qui les différencie et en quoi les États-Unis étaient-ils donc ce que Raymond Aron a baptisé une république impériale, et puis en quoi le demeure-t-il ou non aujourd'hui, Pierre Asner?
Je crois qu'il était très conscient de cette distinction. On n'a pas parlé des choses qu'il a écrites pendant la guerre encore, mais un de ses premiers livres sur les relations internationales, avant le grand schisme, c'est « L'âge des empires et l'avenir de la France ». Je crois que c'était écrit encore à Londres.
C'était en fait la réunion de ces articles publiés dans La France Libre, donc sur ces questions internationales et stratégiques.
Donc il y avait cette idée où à la fois il était patriote français, il n'était pas un Européen au sens classique du mouvement européen de Jean Monnet, mais il était pour une certaine forme d'union de l'Europe. Mais en tout cas, il était sensible, certains le lui ont reproché, au fait qu'on était dans un monde bipolaire et qu'il fallait être alliés de l'Amérique devant la menace soviétique et que l'idée du neutralisme qui était celle du monde journal Le Monde était illusoire. Et il a même réussi à convertir le général de Gaulle au pacte atlantique, parce que la première réaction de Gaulle était très sceptique sur le pacte atlantique, et on lui a montré les articles d'Aron et il a été convaincu. Il a dit à Claude Mauriac, qui était son secrétaire, oui, Aron a raison. C'était une victoire.
Jean-Vincent Lindre, vous n'êtes pas tout à fait convaincu.
Si, je suis d'accord, mais c'est vrai qu'il y avait quand même une divergence entre De Gaulle, enfin je parle sous le contrôle de Joël Mouric et de Pierre Asner, mais une divergence entre De Gaulle et Aron, il faut le dire, sur la question nucléaire, c'est-à-dire le fait que fondamentalement Aron considérait que c'était les États-Unis qui protégeaient l'Europe, alors que De Gaulle voulait développer une indépendance française avec une certaine méfiance justement vis-à-vis du projet européen, etc. En même temps, par rapport aux États-Unis, Aron, quand il écrit République impériale, il a à l'esprit, à mon avis, dans l'idée de cette prudence libérale qui le caractérise, la potentialité ou la tendance illibérale des démocraties à vouloir justement pratiquer
l'impérialisme athénien.
Le refoulement qu'on évoquait tout à l'heure, cette idée que voilà, il y a cette tentation impériale n'est pas propre aux régimes non démocratiques. Elle peut aussi exister dans les régimes démocratiques, et l'histoire nous a montré que c'était le cas, non seulement pour Athènes, mais aussi plus récemment pour les États-Unis. qui ne sont pas impériaux, mais qui ont eu cette tentation à un moment donné dans la séquence néoconservatrice de vouloir régenter le monde.
Joël Mouric.
Oui, je crois que à l'égard des États-Unis, Aron a deux éléments de distanciation. Il y a un élément qui tient à la nature politique des États-Unis. Les États-Unis ne sont pas une nation, et la citoyenneté américaine repose sur la fidélité à la Constitution, qui est la même depuis le départ, amendée. Alors que les Européens sont avant tout citoyens de leur nation respective, la nation étant en quelque sorte un chef-d'œuvre de l'histoire. Le deuxième élément de critique d'Aron à l'égard des États-Unis tient à leur conduite des guerres. Aron reproche aux États-Unis, au fond, de n'être pas clausewitziens. C'est-à-dire qu'ils ont eu tendance dans leur histoire, depuis la guerre de sécession, à différencier la conduite de la guerre visant à une victoire inconditionnelle, des objectifs politiques. On fait d'abord la guerre et on verra après comment dicter la paix. Et c'est cela qu'Aron conteste, parce que ça conduit dans bien des cas à radicaliser les conflits.
Alors, les sociétés démocratiques régulent la conflictualité, elles organisent la compétition pacifique pour le pouvoir, mais dans l'arène internationale, et ça c'est la grande, pas trouvaille, mais enfin c'est la grande idée force de Aron, dans l'arène internationale, contrairement à l'arène nationale des sociétés démocratiques, règne une sorte de loi de la jungle où l'usage de la violence reste toujours une option. La société internationale relève donc d'une logique hobbesienne. La société internationale n'est donc pas une vraie société. Jean-Vincent Hollande sur cette question.
Oui, c'est le fameux principe d'anarchie. C'est pas tout à fait la loi de la jungle. C'est l'idée qu'il y a une absence d'ordre international, et quand bien même l'ONU joue un certain rôle de régulation, Aron considère que, a fortiori au moment de la guerre froide où l'ONU quand même joue un rôle moins important qu'aujourd'hui, qu'il n'y a pas d'instance supranationale au-dessus des États. Et donc cette situation d'anarchie fait que la guerre est toujours possible, que nous vivons à l'ombre de la guerre, la fameuse expression d'Aron. Et donc, bien sûr, la guerre n'est pas souhaitable. Aron a toujours été, et comme Pierre l'a rappelé tout à l'heure, inspiré par le projet kantien d'une pacification des relations internationales, d'une paix perpétuelle, mais il gardait à l'esprit que les États gardent à la possibilité de faire la guerre et se souvenir finalement des deux guerres mondiales et du fait que même si nous sommes sortis de cet âge de la guerre de 30 ans, de la seconde guerre de 30 ans, la guerre est toujours possible. Donc il a essayé finalement de combiner ce versant réaliste qui le rattache à la tradition réaliste des relations internationales, la puissance, l'hégémonie, etc. et le versant libéral, la prudence libérale qui le caractérise, c'est-à-dire cette volonté de maintenir le statu quo dans le cadre de la guerre froide et l'idée un certain idéalisme qui était quand même la philosophie dans laquelle il a été formé. Même s'il y a un débat pour savoir si Aron est plus aristotélicien que kantien, il faut quand même rappeler qu'il a été un étudiant formé au néo-kantisme français et à toute cette tradition réflexive qui est très présente dans sa philosophie.
Tout à l'heure, Pierre Astien, vous nous parliez de cet aspect kantien dans la philosophie d'Aron. Qu'est-ce que ça donnait concrètement dans sa réflexion sur la relation internationale? Est-ce qu'il croyait en un arbitrage international? Est-ce qu'il mettait sa confiance dans des institutions supranationales, dans le droit international?
Non, justement, sur le droit international, il était assez sceptique. Et dans Paix et Guerre, ce n'est pas le chapitre qui est le plus développé. Mais d'un autre côté, il croyait à une certaine pacification et il avait une idée qui, je dois dire, restait assez abstraite. C'était un coup de chapeau, si j'ose dire, qu'il y a dans ses livres qui est son côté kantien quand même, que un jour il croit à la réconciliation humaine, disait-il, mais il ne faut pas l'identifier à un régime donné, que certainement ceux qui voyaient comme Sartre et Merleau-Ponty dans l'Union soviétique une chance pour la réconciliation de l'homme par l'homme, c'était absurde. Mais quand même, il gardait une vue qui, je dois dire, était assez abstraite, assez désincarnée d'une réconciliation finale, mais ce qui était concret, c'était quand même la réalité qu'il fallait maintenir l'équilibre et qu'il n'était pas un fanatique de l'ONU et même du droit international, je crois.
Et puis il ne croyait pas à la fin de l'histoire.
Oui, Aron a cette expression qui a beaucoup frappé les juristes et même leur a déplu, hein, l'imperfection essentielle du droit international. C'est vrai qu'aujourd'hui, les juristes reprochent à Aron cette négligence par rapport au droit, et c'est vrai que l'émission s'intitule « Avoir raison avec Aron ». Moi, je suis spécialiste de sciences politiques, mais je reconnais qu'il a peut-être pas assez pris au sérieux le droit international, même si, bien entendu, dans le contexte de la guerre froide, on n'était pas dans les développements de la justice pénale internationale telle que, par exemple, elle s'est développée. Donc, il faut pas non plus lui faire dire ce qu'il aurait pas pu dire, étant donné le contexte dans lequel il a vécu.
Pas d'anachronisme.
Mais, en même temps, il est resté, d'ailleurs, Hoffman était d'accord avec lui, Stanley Hoffman, un élève d'Aron que vous avez cité en début d'émission, qui disait « Le droit international, c'est uniquement intéressant quand on le voit du point de vue de la politique. » Bon, c'était des points de vue aroniens, mais en même temps, c'est vrai que l'évolution de la société internationale va dans un sens, dans le sens quand même d'une régulation par le droit, et ça, c'est une réalité.
On peut me reprocher de ramener le monde d'aujourd'hui à celui du passé, et de me concentrer sur l'intérêt étatique aux dépens du transnational ou supranational. Certes, j'ai de quelque manière contribué à ces distinctions, mais je n'en ai guère tiré parti. Le transnational, la société économique, religieuse, qui ignore les frontières et bien souvent les dévalorise, je l'ai identifié conceptuellement et mentionné ici ou là, mais je ne l'ai pas analysé en profondeur. Mémoire, page 593.
Bref, le modèle sur lequel raisonne Aron, c'est celui du système westphalien, celui des États souverains. On a cru pouvoir l'enterrer, il y a une dizaine d'années, ce système au profit d'un système moins centré, disons, sur les États et davantage sur des blocs commerciaux juridiques, dont l'Union européenne, d'ailleurs, est censée fournir le patron. Mais le fait est qu'aujourd'hui, voyons ce qui se passe en mer de Chine, on y revient, Joël Mourick, à ce système quasi westphalien. Qu'en est-il ? Donc Aron n'a peut-être pas eu tellement tort que ça.
Oui, si l'on considère sa critique de la construction européenne, il ne veut pas que l'Europe soit l'alibi de l'inaction. C'est une formule qu'il a employée à plusieurs reprises.
L'actualité.
Oui, il considère que les États européens et que les citoyens européens restent citoyens d'États-nations. Et il s'inquiète finalement du nom d'Europe que l'on donne pompeusement à ce qui est pour lui, c'est une expression qu'il utilise dans les guerres en chaîne, un mince fragment de la partie occidentale du vieux continent.
Et il est quand même moins sceptique que le général de Gaulle, auprès de qui il a été un moment.
Alors, ce qui importe à Aron, c'est de tirer tout le parti que l'on peut de la construction européenne, notamment d'avancer dans la réconciliation franco-allemande, notamment pour obtenir un éventuel concours des Allemands de l'Ouest à la défense de l'Europe occidentale.
Il était pour la CED, Communauté européenne de défense.
Sur la CED, il souhaite avant tout qu'il y ait une défense de l'Europe occidentale. Il a des réserves dès le début. Mais dans un premier temps, il est finalement prêt à accepter l'idée, pourvu que l'on fasse quelque chose. En revanche, plus le débat avance, et notamment dans la dernière partie consécutive à la mort de Staline et qui va jusqu'à l'échec avec le rejet du traité par le Parlement français, Aron adopte des positions de plus en plus gaulliennes. En novembre 1952, par exemple, dans le Figaro, il dit que on ne peut pas faire abstraction de l'histoire séculaire des nations et que l'Europe, si elle se fait, ne sera pas la fusion, elle sera l'accord des souverainetés.
Ah, pour revenir à Pierre Asner.
Oui, non, j'ai un petit témoignage là-dessus, parce que moi j'étais très pro-CED, et j'avais demandé à Aron comment se fait-il, les communistes sont contre, les nationalistes, les droites sont contre, ça ne doit pas être entièrement mauvais si les communistes et la droite sont contre, et pourquoi est-ce que vous étiez sceptique sur la CED ? Là, il m'a fait une autre réponse en disant « je voulais préserver l'Union française ». française. C'est ça qu'il m'a dit. Il craignait que s'il y avait une armée européenne au lieu de l'armée française, la France ne serait pas libre d'agir dans ses anciennes colonies et de maintenir l'Union française. Ça, je me rappelle très bien que c'est la raison qu'il m'a donnée à l'époque.
On disait de avoir raison avec Aron, il n'avait pas toujours raison. Quand on l'entend à l'instant nous dire qu'effectivement il regrette lui-même de ne pas avoir suffisamment consacré de place à la société internationale, ou transnationale en général, il entend par là la société économique, idéologique, religieuse, qui ignore les frontières et même, dit-il, les dévalorise. Aujourd'hui, il y a des théoriciens comme, disons, Bertrand Badie, qui estiment qu'il faut étendre aux sociétés, aux ONG, aux acteurs non étatiques, l'étude des relations internationales. En s'étant limité aux relations entre États, est-ce que vous estimez aujourd'hui que finalement, Aron est dépassé Jean-Vincent Hollande?
Alors, s'agissant de Bertrand Badie, lui-même s'est inspiré des théories transnationalistes comme James Rosenau, par exemple, qui ont été élaborées dans les années 70, et donc Aron devait les connaître. Et c'est pour ça que lorsque il mentionne dans la préface de 1984, qui publiait juste donc à la fin de sa vie, publié après sa mort, où il dit « Oui, j'aurais dû tenir compte davantage des acteurs transnationaux », il tient compte de cette critique qui a été faite aux États-Unis du fait que, voilà, il n'y a pas que l'État, il y a aussi les entreprises, etc.
Et Badie, les ONG.
Et les ONG, etc. Et Badie a repris, en fait, à importer cette théorie en France. Donc moi, ce que je trouve remarquable dans cette citation, c'est qu'il reconnaît que voilà, la théorie n'est jamais parfaite et qu'elle évolue à travers l'histoire, et c'est pour ça qu'il dit qu'il faut une sociologie des relations internationales plus qu'une théorie systématique, fixe, etc. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que certes, il est statocentré, il considère que les États sont les éléments souverains fondamentaux. Il cite la phrase de Rousseau au début de Paix et guerre entre les nations, la guerre n'est point une relation d'homme à homme, mais d'État à État. Sous-entendu, le fait que la guerre, c'est une mise en forme de la violence à travers les relations entre les États, mais en même temps, dès les années 50-60, il écrit des textes sur les guerres dites révolutionnaires à l'époque, en parlant des partisans, parlant des combattants irréguliers, et donc ces textes-là qui évoquent l'affrontement d'acteurs non étatiques à des acteurs étatiques sont incroyablement actuel pour envisager les questions de terrorisme, qu'il a d'ailleurs traité dans Paix et guerre entre les nations, les questions de guerre irrégulière. Donc certes, Aron était statocentré, il considérait que la guerre, le système international était interétatique, mais il considérait aussi qu'il y avait d'autres formes de violence collective, d'autres formes de guerre, et donc d'une certaine façon, il avait déjà en quelque sorte dépassé son statocentrisme.
Je dirais oui et non, parce que j'en ai pas mal parlé avec lui. Et quand même, il en restait quelque chose. Quand il a fait la deuxième édition de Paix et guerre, il se demandait, on en a discuté, s'il n'avait pas été trop statocentré dans la première édition. Et il dit, j'ai parlé de la société internationale en même temps que des États. Mais quand même, il était resté quand même statocentrique. Et il trouvait que parler des conflits en général, mettre sur le même plan des conflits non étatiques avec, dans une théorie générale des conflits, ce qui est en général la tendance américaine. Il y a le Journal of Conflict Resolution qui a à la fois qui traite à la fois des États et des autres conflits. Et il disait non, ça m'agace les dents de voir les autres conflits, mais sur le même plan que les conflits entre États. Et là, il y avait quelque chose quand même, il se demandait s'il avait raison, il hésitait, mais il restait plus statocentrique parce qu'il y a quand même, d'ailleurs le monde a évolué depuis sa mort encore, je ne sais pas ce qu'il dirait de Daesh, est-ce qu'il faut le considérer comme un État, comme un pseudo-État, comme une bande de criminels qui s'intitule État, je ne sais pas, mais je crois que depuis sa mort, le monde est devenu de plus en plus la distinction entre État et non-État est quand même un peu battue en brèche.
Il y a de nouveaux acteurs internationaux.
Des États qui n'en sont pas vraiment et des non-États qui se donnent comme État. Le monde est devenu beaucoup plus confus.
Déjà en 69, il écrit un texte qui s'appelle Clausewitz, c'est notre temps, qui préfigure l'ouvrage sur Clausewitz, dans lequel la dernière phrase c'est à l'heure où la distinction entre la guerre et la paix tend à s'effacer, où on est dans des situations un peu comme ça, troubles. Et c'est vrai qu'il était statocentré en définitive parce qu'il considérait tout simplement que l'État national était le principal protecteur de la liberté et des droits des citoyens. Voilà.
À l'âge nucléaire, la paix traditionnelle disparaît en même temps que la guerre totale. La guerre froide équivaut à une guerre limitée où chacun des deux camps n'emploie qu'une partie des moyens disponibles, mais où l'un vise une victoire totale et l'autre une victoire partielle. Mémoire, pages 393 et 402.
Alors, dans ces mémoires qu'on vient de citer, Aron écrit avoir participé en 1960 au séminaire de Harvard et du MIT, dans lequel furent élaborées les idées qui devinrent celles de l'administration Kennedy. Est-ce qu'il s'agit de la doctrine dite de la riposte flexible, de la riposte graduée? Et puis, comment s'est-il trouvé là, Joël Mouric?
Alors, Raymond Aron a été l'un des premiers à concevoir, à thématiser ce qu'on a appelé ensuite la riposte graduée, hein, puisque dans une série d'essais publiés en 1957, Espoir et peur du siècle, il consacre le troisième essai à la guerre, de la guerre, et il y développe justement sa vision qui rejoint celle de Clausewitz, la guerre est un caméléon, et donc la guerre peut prendre différents aspects. Il évoque à l'époque, par exemple, l'équilibre nucléaire qui se construit autour de l'Europe, une guerre relativement classique que les Israéliens et les Arabes vont livrer au Moyen-Orient, et puis la guerre des partisans, que Jean-Vincent évoquait à l'instant, qui se développe par exemple en Algérie.
Et en quoi, Pierre Asner?
Je me rappelle qu'il a été assez influencé par ce séjour à Harvard, où il a découvert toute cette floraison de la pensée stratégique américaine et la riposte flexible, etc. Parce qu'il était très bien avec le général Gallois, qui était le prêtre de la dissuasion
faible au fort, en disant.
Oui. Alors, et il est revenu en parlant de riposte flexible. Il a eu une grande altercation avec Gallois quand il exposait ce qu'il avait, ses conversations qu'il avait eues aux États-Unis avec l'école des stratèges américains. Gallois l'avait interrompu, éructé, dit-il. Ils sont bouillis à cette occasion-là. Comme en beaucoup de choses, il n'était pas. Gallois était, comme disait Raymond Aron, le champion du monde du dogmatisme. Il y avait tout ce qui n'était pas la riposte sur les cités en deuxième frappe était à écarter. Et Aron acceptait une partie des discussions sur la qui avait déjà eu lieu en Angleterre un peu, mais surtout vous savez, sur la riposte graduée, la riposte flexible, etc. Ça a été une occasion de rupture entre eux.
Néanmoins, la dissuasion nucléaire introduit un élément nouveau dans le calcul stratégique, la disproportion entre les gains escomptés et les pertes subies devient folle. C'est pour ça que les Américains appelaient ça MAD, Mutually Assured Destruction. Jean-Vincent Lindre.
La guerre nucléaire, c'est la guerre absolue, en quelque sorte, c'est-à-dire la guerre qui, si elle a lieu, effectivement, aura des conséquences illimitées, comme disait Joël tout à l'heure. Et donc, ça fait que ça reconfigure l'espace stratégique où il y a, en fond, trois formes de guerre. Hein. C'est ce qu'il dit bien dans un certain nombre de textes, y compris ce texte que Joël a cité, qui est très important, méconnu de 57. C'est-à-dire la guerre nucléaire, qui est la guerre disons ultime, mais qui donnerait lieu à une destruction mutuelle, la guerre interétatique conventionnelle limitée, mais qui, du fait de la dissuasion et de la puissance nucléaire des États, peut devenir une guerre nucléaire. Et donc, il reste une place, et cette place a été grandissante, elle est aujourd'hui centrale, pour la petite guerre, la guerre régulière, les guerres entre des États et ceux qui ne le sont pas, parce que ceux qui ne sont pas des États ou ceux qui sont des États faibles savent très bien qu'ils ne peuvent pas faire le poids face aux armées nationales et aux puissances nucléaires, et donc contournent le champ de bataille, aussi bien le champ nucléaire que le champ conventionnel, pour faire la guerre, comme dirait le général Rupert Smith, au milieu des populations. Et ça, ce phénomène-là, c'est le terrorisme.
Oui. Joël Mouric.
Oui, alors, première remarque, c'est qu'Aron assume totalement l'arme nucléaire. Hein, il dit à plusieurs reprises que pour la première fois, il y a une chance sérieuse que les États ne livrent pas la guerre qu'ils préparent. Donc la guerre nucléaire, la menace de la guerre nucléaire peut être un recours contre la menace de la guerre hyperbolique. Par ailleurs,
c'est une espèce de bluff. On a une carte maîtresse. Si on la bat, tout le monde est mort. Et pour ne pas la battre, on est obligé de limiter le niveau de l'ascension aux extrêmes. C'est ça ?
Oui. Alors malgré tout, il faut que cela reste crédible. Et à ce titre, Aron est hostile à la stratégie des représailles massives, surtout quand elle est proférée par un petit État-nation européen. Par exemple, il a été très critique vis-à-vis de la force de dissuasion britannique, constituée autour de Bombardier à partir des années 1950. Et il pensait qu'il fallait préserver des forces conventionnelles relativement importantes. Il a beaucoup critiqué le livre blanc britannique sur la défense de 1957 qui, précisément, diminuait considérablement les forces conventionnelles parce que, disaient les responsables britanniques, la force de dissuasion pourrait les remplacer. C'est à ce titre-là donc qu'il est favorable au maintien de forces conventionnelles significatives et également à l'existence d'armes nucléaires tactiques. Parce que il faut qu'il y ait une sorte de gradation et que la menace du tout ou rien contribuerait à une situation qu'il qualifie de ligne Maginot atomique.
Ce ne serait pas crédible. Il y a un autre aspect de la pensée aronienne des relations internationales qui me paraît très nouveau, très original, c'est l'aspect sociologique. Il ne faut pas oublier qu'Aron était d'abord un sociologue. Quelle corrélation peut-on établir, selon Aron, hein, entre les différents types de régimes politiques et, disons, les constantes de leur action extérieure ? Puisqu'il dit aussi que les politiques étrangères ne changent guère, ne varient guère, malgré les changements des régimes et des gouvernements. Il y a des constantes, qui sont celles de l'histoire et de la géographie, tout simplement.
Oui et non, quand même,
Pierre
parce que ça, c'était la théorie de Morgenthau, le pape de l'école réaliste américaine, avec lequel il avait beaucoup polémiqué, Morgenthau disant que ce que pensait De Gaulle, je crois aussi, que la politique des États était toujours la même et que la Russie se servait du communisme, par exemple. Et lui, quand même, prenait très au sérieux le phénomène totalitaire et l'idéologie, n'est-ce pas ? Alors, on peut dire que aujourd'hui, ce n'est plus au nom du communisme et de l'Union soviétique, mais qu'il y a chez Poutine certaines choses très en commun avec le passé soviétique. Mais quand même, Aron insistait sur le rôle de l'idéologie, n'est-ce pas ? Les buts peuvent être la puissance, la gloire ou l'idée. Et il y avait le rôle de l'idéologie et de l'idée que l'école réaliste classique à la Morgenthau minimisait, et De Gaulle aussi. De Gaulle disait, la Russie se sert du communisme, elle n'est pas au service du communisme. Il y avait peut-être quelque chose de vrai, d'ailleurs. Mais chez Aron, il combinait le réalisme avec une grande attention à l'idéologie, en particulier à l'idéologie totalitaire.
Jean-Vincent Lindre.
Le fait que Aron soit sociologue et ait eu des chaires de sociologie à la Sorbonne puis au Collège de France le rendait particulièrement sensible à la diversité des formes sociales. C'est-à-dire qu'il considérait que la théorie systématique des relations internationales calquée sur les modèles économiques ou mathématiques n'était pas du tout bonne parce que, tout simplement, en matière de relations internationales, on ne peut rien prévoir. Et d'ailleurs, les spécialistes de relations internationales qui se sont mis à prévoir des choses, en général, n'ont pas prévu les événements majeurs des relations international. Mais c'était une sociologie assurément plus weberienne que durkheimienne, c'est-à-dire qui s'est opposée à toute cette tradition sociologique durkheimienne, avec cette idée justement, propre à Weber, qu'il faut s'intéresser aux motifs d'action, les raisons pour lesquelles les acteurs agissent, et ces raisons sont variables par définition, mais ont à voir avec l'idéologie, les passions, et pas simplement, comme le disent un certain nombre de réalistes américains, les intérêts, l'hégémonie, etc. Et qu'il faut, quand on fait des relations internationales, avoir à l'esprit les deux piliers, c'est-à-dire les passions d'un côté et les intérêts de l'autre.
Et puis avec la forme des sociétés. On sait bien qu'avec la Révolution française interviennent des phénomènes tels que la mobilisation en masse, le patriotisme exacerbé, oui. Et donc voilà. Clausewitz a bâti sa théorie là-dessus. Joël Mouric.
Oui, et un exemple qui me vient en tête est un article de 1982 dans l'Express où il analyse en parallèle la guerre Iran-Irak et la campagne menée par les Israéliens au sud Liban. Et par rapport à ce que nous venons de dire, dans cet article de 1982, Raymond Aron montre bien la nature spécifique du régime de la République islamique d'Iran. Et il estime que Saddam Hussein a commis l'erreur d'attaquer un État qui est en fait un État idéologique, dont il compare les capacités à mobiliser les foules, à fanatiser les combattants, avec ce que les alliés ont pu trouver en face d'eux à l'époque de la Révolution française. Et de la même manière, il évoque les risques pour les Israéliens dans leur campagne au Liban, de se retrouver enlisés dans un conflit qui serait beaucoup plus compliqué qu'ils ne pouvaient le craindre au départ.
Une paix durable ne se fonde ni sur l'équilibre des forces, ni sur la terreur de tous, ni sur l'ordre des empires. Il faut imaginer que la prospérité de tous est conçue comme nécessaire à la prospérité de chacun, que la collectivité admette le caractère supranational de l'ordre économique. Mémoire, page 606.
Alors, Aron décrit les systèmes internationaux. Ils peuvent être homogènes ou hétérogènes. Il décrit les acteurs principaux. Est-ce qu'on est dans un système bipolaire ou multipolaire, comme c'est le cas aujourd'hui, bipolaire comme c'était à l'époque de la guerre froide ? Qu'impliquent ces distinctions quant au fonctionnement des systèmes internationaux tout court ? Jean-Vincent Lindre.
Pardon. Oui, alors effectivement, le système de la guerre froide, c'était un système à la fois hétérogène sur le plan idéologique et bipolaire avec ces deux puissances. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, si on utilise les catégories d'Aron, qu'on est dans un système à tendance multipolaire, en tout cas qui tend vers la multipolarité, et qui est hétérogène, et ce qui est en fait assez inédit, puisque si on compare là aussi avec le système westphalien, qui lui était multipolaire, c'était un système qui était par ailleurs homogène, où il y avait une certaine homogénéité, en tout cas en termes de d'État, disons, de construction de l'État. Et c'est ce qui rend notre système particulièrement difficile à lire
Daesh,
et à interpréter.
Avec des acteurs comme Daesh, on a un système typiquement hétérogène.
Complètement hétérogène sur le plan idéologique. On le voit aujourd'hui. Enfin, les événements le montrent bien. Il n'y a pas, l'homogénéité libérale a été battue en brèche depuis une dizaine, une vingtaine d'années. Et en même temps, il y a cette multipolarité. C'est-à-dire des nouvelles puissances qui réémergent. La Chine, la Russie qui entend rejouer un rôle important, etc. Et donc tout ça complique le jeu, qui le rend particulièrement difficile à lire. Là, je rejoins les hypothèses et les thèses de Pierre Asner. Voilà. On est dans une situation idéologiquement particulièrement contrasté et en même temps avec des intérêts de puissance particulièrement exacerbés.
Pierre Asner, c'était aussi pour montrer à quel point les catégories conceptuelles posées par Aron pour penser les relations internationales restent d'une grande actualité, puisque finalement il a posé des principes assez abstraits pour qu'ils puissent s'adapter et rendre compte de la diversité des situations, y compris celles que nous vivons actuellement.
Oui et non, je dirais. Je dirais que concrètement, oui, par exemple, il a écrit d'excellents chapitres et dans le Clausewitz et dans Paix et Guerre sur la guerre subversive, sur même dans les guerres coloniales, etc. C'est cette formule qui est, je crois, très juste sur gagner ou ne pas perdre, que celui qui envoie une expédition, il faut qu'il gagne, tandis que l'autre qui est sur place, qui se dissimule, qui attend, il peut attendre, il suffit de ne pas perdre. Un jour, la puissance impériale lointaine se fatigue, ou son opinion publique se fatigue, elle s'en va, et celui, l'autre, il lui suffit de ne pas perdre et de survivre. C'est une analyse qu'il a faite pour le Vietnam, pour l'Algérie, etc. D'un autre côté, dans Paix et Guerre, et conceptuellement, il reproche justement à Morgenthau de dire que c'est la même aspiration à la puissance que l'on trouve à l'intérieur et à l'extérieur, et il tient à préserver le côté différent des États. Il reste assez interétatique et il disait que ça l'agaçait les dents quand on parlait de conflits de la même manière pour des conflits interétatiques, pour des conflits intérieurs, pour des acteurs non étatique. Et je crois à ce point de vue-là que l'évolution depuis, je ne sais pas ce qu'il dirait aujourd'hui, mais on a tellement d'États qui ne sont pas vraiment des États, qui n'ont pas le, peuvent pas se défendre eux-mêmes, et d'un autre côté d'acteurs non étatiques qui se présentent comme le Daesh, comme des États, mais enfin le monde est, me semble-t-il, beaucoup plus brouillé. Et lui, il emploie le concept de système hétérogène par rapport à homogène pour un critère. Est-ce que les États reconnaissent leur réciproquement leur légitimité, on perd une province ou quoi, on perd, mais enfin ça. Et au contraire, c'est des États qui ont où il y a des États révolutionnaires qui ont un autre principe de légitimité, et où si on perd, on est fichu, etc. Mais je crois que par rapport à ce qu'il a décrit, le monde qu'on appelle encore international a évolué, mais il y a beaucoup plus de confusion, de pseudo-États, d'États faillis d'un côté, et d'acteurs non étatiques qui finissent par avoir une puissance comparable à celle des États, ce qui, au point de vue armement, au point de vue capacité de nuire.
Dernier aspect que j'aimerais qu'on évoque avec vous, Joël Mouric, c'est le fait que Aron s'est intéressé en sociologue au processus de prise de décision qui sont jugés aujourd'hui tout à fait déterminants. Je pense par exemple à ce livre de Christopher Clark, Les Somnambules, qui analyse dans le détail l'influence réciproque des différents décideurs à l'intérieur de chacun des États, responsables de la diplomatie ou des états-majors militaires, dans le déclenchement de la guerre de 14. Qu'est-ce que nous dit la pluralité des centres de décision et qu'est-ce qu'Aron en pensait?
En fait, Aron a toujours été un penseur de la complexité, et c'est ainsi qu'il a évoqué pour le déclenchement de la guerre de 1914 ce qu'il appelle la surprise technique dans les guerres en chaîne. C'est-à-dire un processus qui a dépassé les intentions des acteurs et mené à l'ascension aux extrêmes, ce qui est le risque permanent de toute décision politique. Donc la leçon d'Aron est plutôt une leçon de pragmatisme. Par exemple, au début des années 1950, il insiste sur le fait que dans le cadre de la guerre froide et des conflits périphériques qu'elle entraîne, il faudra être capable de dépasser les a priori idéologiques et éventuellement d'établir des compromis, même avec des régimes détestables. Oui. Par ailleurs, en ce qui concerne la prise de décision politique, elle revient, et là il est tout à fait clausewitzien, au chef d'État, qui est l'intelligence de l'État personnifié.
Jean-Vincent. Oui, sur la question de la diplomatie, en effet, Aron était un réaliste qui considérait qu'il fallait discuter même avec le diable, mais ça ne veut pas dire qu'il fallait être d'accord avec lui. Et donc il est resté assez ferme sur un certain nombre de principes qui ont à voir avec son libéralisme, son attachement à la démocratie, et il me semble que dans les débats actuels, c'est aussi ça a du sens de se dire qu'au finalement ce qui nous réunit, c'est cet attachement au-delà de nos différences politiques, etc., à ce qui fait la sève de nos régimes politiques. Et ça, c'était très important chez lui, mais c'était matiné d'une volonté de à la fois réaliste de discuter avec tout le monde, et cette prudence qui là pour le coup relève plus des Grecs et d'Aristote que de Kant.
Et je voudrais insister quand même sur l'apport d'un livre comme Les Guerres en chaîne, de son interprétation de la guerre de 14, etc. Parce que alors que Peguer entre les nations me paraît un petit peu rigide, il y a l'intérieur et à l'extérieur, il y a les États, il y a le non-État. Et au contraire, là, il considère que pour la guerre de 14, ses origines ne sont pas tellement importantes. C'était un raté du système diplomatique, disait-il. Mais le déroulement avec la surprise technique, avec les qui favorisent les révolutions, les idéologies qui elles-mêmes sont porteuses de guerre, il montre admirablement l'interaction entre les facteurs objectifs et subjectifs, entre l'intérieur et l'extérieur, etc. Alors que dans Peguer, c'est un petit peu rigide, il a l'air de séparer l'intérieur, l'extérieur, l'étatique, le non-étatique, alors qui montre très bien leur dialectique dans ses œuvres concrètes sur le XXe siècle.
Eh bien, je vous remercie, Pierre Asner. Je rappelle que votre dernier livre s'appelle « La revanche des passions, métamorphose de la violence et crise du politique ». Jean-Vincent Olyndre, vous venez de sortir avec Jean Béchler, « Penseur de la stratégie, l'homme et la guerre » aux éditions Hermann. Et Joël Mouric, vous êtes l'auteur de « Raymond Aron et l'Europe » aux presses universitaires de Rennes. Et vous avez eu le prix Raymond Aron 2011. C'était « Avoir raison » avec Raymond Aron, troisième épisode aujourd'hui, Aron, penseur des relations internationales. Lecture des textes de Raymond Aron, Christophe Brault. Prise de son, Jean-Benoît Tétu, Pierre Mine. Réalisation, Anne-Pascale Desvignes. Demain, Aron et la philosophie de l'histoire.